On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 2 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 17, découvrir le rôle de l'attention dans l'apprentissage au collège. On a toutes et tous dit une fois dans notre carrière à nos élèves, soyez attentifs. Pourtant, jamais nous ne leur apprenons explicitement ce qu'est l'attention. Dans sa classe de collège à Alom, Peggy s'est engagée dans une conique classe et propose un temps dédié à apprendre comment fonctionne l'attention. Munie d'une lampe torche, d'un tableau d'affichage ainsi que de multiples jeux collaboratifs, Peggy incite ses élèves à se familiariser avec ce qui parfois peut être leur plus gros obstacle à leur apprentissage, leur cerveau et son fonctionnement.
Ça va ?
Oui.
Ok. Vous avez soufflé un peu pendant la récré, ça va mieux ?
Oui.
Bon, très bien. On repart sur notre projet, les champions du cerveau. D'accord ?
Bonjour Peggy !
Et bonjour Nathalie !
On va parler attention avec toi, ça me réjouit.
Très bien.
Comment tu nous présenterais en quelques mots cette pratique sur l'attention ?
C'est pas une pratique spécifique sur l'attention, c'est plutôt englobé dans un projet de classe cognitive. Où on travaille sur mémorisation, attention et donc la connaissance du cerveau, de ses fonctionnements et pour améliorer ses compétences en classe.
Alors qu'est-ce qui cadre cette pratique, cette conique classe ? L'espace, le temps, c'est-à-dire tu fais ça combien de fois dans la semaine ? Est-ce que ça te demande beaucoup de préparation, de matériel ? On entend que tes élèves ont un porte-vue dédié.
Et pour ça, vous avez besoin d'un matériel, c'est quoi ?
Le porte-vue.
Le porte-vue, allez.
Voilà, qu'est-ce qui cadre cette préparation ?
Alors, si on veut que ce soit quand même bénéfique aux élèves, en tout cas sur cette année scolaire, il faut quand même y accorder du temps. Je prends une heure de vie de classe par semaine, ce qui en réalité est plus que ce qu'on doit faire. Mais comme j'ai envie que ce projet avance, ben voilà, je donne de mon temps aussi. Les élèves ont effectivement un porte-vue dans lequel on va insérer tous les documents sur lesquels on travaille, qu'ils soient des documents de synthèse ou des documents de suivi, il y a de tout. Voilà, ça se fait toujours dans la même salle, on a souvent besoin d'un vidéoprojecteur et puis parfois de petits matériels qui viennent agrémenter, comme aujourd'hui on a utilisé une lampe torche qui nous permettait de visualiser concrètement ce qui était l'attention. Aujourd'hui aussi on a utilisé une petite cloche, d'autres fois c'est autre chose. Voilà, c'est des petites astuces matérielles qui permettent de rendre le truc un peu plus ludique parfois et plus concret aux élèves.
Ok, on est prêt ?
Oui.
Oui. Eh bien, on y va. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin ? On a parlé de quoi ce matin ? Je vous écoute. Le thème, c'était quoi, Gina ?
Le thème, c'était l'attention.
C'était l'attention. Et on a dit que l'attention, du coup, ça, c'était quoi ? Tu peux nous redire, Kylian, vas-y.
L'attention, c'est rester focalisé sur une chose.
Ouais. Mais c'est aussi faire quoi ? Être attentif, vous vous souvenez, Imen ?
Être concentré.
Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'on fait quoi ? On a dit que être attentif, c'était sélectionner des informations.
Ta source d'inspiration ?
Alors, je me suis renseignée sur les sciences cognitives appliquées à l'éducation. Et cette année, je m'inspire donc du formidable livre « Enseigner aux élèves comment apprendre » de Monsieur Borst. Madame Descrombecq et Monsieur Hubert, qui proposent des séances donc d'animation autour de la mémorisation, de l'attention, etc. et qui sont d'un grand secours pour les enseignants qui veulent travailler là-dessus.
Et oui, un bon cadre pour se lancer de façon très sécurisée pour parler de la cognition avec nos élèves. Tu nous racontes ce que tu fais avec ta frontale ?
Oui. On a dit aussi quelque chose sur l'attention. L'attention, c'est faire ça. C'est-à-dire, je dis à mon cerveau de regarder à un seul endroit. Vous vous souvenez ?
Oui.
C'est ça, l'attention.
Eh bien, écoute, c'était pour que les élèves comprennent que l'attention, c'est un moyen de focaliser sur une chose spécifique et particulière. De la même manière qu'un faisceau lumineux se focalise sur un endroit. Et donc, c'était aussi de montrer que quand je suis en cours et que je suis censée être focalisée ou sur ce que dit l'enseignant ou sur un texte ou voilà, sur quelque chose de spécifique, bien quand mon attention se porte aussi sur le voisin à qui je réponds, le stylo qui est tombé par terre, que sais-je encore, eh bien, du coup, on perd ce principe de focalisation et du coup, on perd les bénéfices du cours.
Je veux bien que tu nous racontes la première fois que tu abordes ce sujet avec tes élèves et que tu leur dis, eh ben, on va parler de votre cerveau.
Du coup, l'annonce de ce projet CogniClass, ça a été plus complexe que ce que je l'aurais envisagé, puisque en dépit du fait que j'avais été bien explicite sur ce qu'on allait faire et les processus qu'on allait mettre en place, en fait, certains élèves ont pensé qu'ils avaient été castés pour être dans cette classe parce que ils étaient nuls. Donc, il a fallu déconstruire déjà cette perception des choses pour ensuite entrer vraiment dans le travail de connaissance, du cerveau. Et là, en fait, c'est intéressant parce que le début du dispositif, ça leur plaît. Qu'est-ce qu'un neurone? Comment ça marche, les neurones entre eux, etc. Et là, pour le coup, moi, j'ai créé plein de petits matériels pédagogiques. J'ai créé des neurones avec de la laine et des boutons. On les relie entre eux dans la classe. Donc, il y a l'aspect à la fois connaissance, mais aussi ludique, qui les a fait rapidement rentrer dedans.
Tu leur parles de 4 étapes de la mémorisation.
On avait vu aussi les 4 étapes de la mémorisation. Alors là, on fait travailler notre mémoire, justement. Est-ce qu'on a bien rangé tout ça dans notre cerveau ? Quelles sont les 4 étapes de la mémorisation ? Allez, on y va. Ouh là là, je sens le coup de mou.
Tu veux bien nous les partager ?
Oui, alors la première étape, c'est la perception, donc via les sens.
Quelles sont les 4 étapes de la mémorisation ?
Visualiser.
Première étape, est-ce que c'est seulement visualiser ? C'est quoi ?
Percevoir.
Pour percevoir, Naomi, pour percevoir, on utilise quoi ?
Nos sens.
Nos sens. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
La deuxième étape, c'est le fait d'encoder. Donc là, on va intégrer les informations, les sélectionner, les comprendre.
Deuxième étape, Hugo.
On encode.
On encode. Ça veut dire quoi, encoder ? Ouh, c'est dur. Oui.
Ça veut dire... notre cerveau, il détecte, déchiffrer.
Il détecte et il intègre. Vas-y.
Il traite les informations.
Il traite, il intègre les informations.
La troisième étape, c'est le fait de les ranger. De les dispatcher dans différentes zones du cerveau.
Après, il fait quoi, notre cerveau ? Il se met en mode Ikea. Donc, il... Ah ouais ? Ah non ? Oui, il enregistre, mais en faisant quoi ? Il enregistre partout, n'importe où ? Tu te souviens, Ashley ? En faisant quoi ? Il met dans des cases, donc il... Il range.
Et donc, la dernière étape, c'est la récupération. C'est quand on va aller rechercher justement dans les zones dans lesquelles on a rangé nos informations, une information pour s'en resservir.
Et du coup, après, qu'est-ce qu'on peut faire facilement ? Oui ?
Récupérer.
Aller rechercher les informations quand on en a besoin.
Je suis très admirative du rythme que tu donnes à ta classe.
Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi... Être attentif est primordial. Primordial, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire ?
Oui.
Ouais, alors dites-moi un synonyme pour voir.
Suffisamment rapide, mais pas trop accélérant au moment où tu sens un peu de mou.
Un synonyme de primordial, puisque tout le monde me dit oui.
Obligatoire,
ouais. C'est pas mal. Un autre ?
Important.
Ou alors ?
Essentiel.
Et essentiel pour apprendre et comprendre.
Tout ça, c'est voulu ou c'est purement intuitif?
Alors, avant d'arriver en classe, je savais les étapes. Pour moi, elles étaient très claires. Ceci dit, il y a des choses que j'ai ou switché ou accéléré en sentant la classe, j'ai envie de dire. Mais par contre, les étapes, pour moi, elles étaient préétablies.
Tu proposes à tes élèves de s'engager avec leur corps, avec ce jeu du miroir.
Alors, on va faire un jeu. D'accord ? Je vais vous montrer ce jeu avec Ashley. Tu viens me faire voir ? Tu viens avec moi ? Mais après, vous allez l'expérimenter deux par deux. C'est le jeu du miroir. Donc, tu vas faire des gestes, lentement d'abord. Et moi, je dois faire exactement la même chose que toi. Vous avez compris le jeu ?
Oui.
Ok. Donc, d'abord, il y en a un qui guide le jeu et l'autre qui essaye de suivre. Après, on a, quand il y a la petite cloche, on intervertit. Ashley avec Johan, Naomi avec son voisin, Kylian, Jenna, Lilou, Lola, toutes les deux et vous deux. Ça va ? Est-ce que tout le monde a un binôme ?
Oui.
Alors, vous devez vous mettre debout et face à face. Vous avez décidé qui guide, qui suit ? C'est bon ? Ça commence.
Tes élèves sont plutôt coopérants et coopérantes. Comment ça s'est installé, cette coopération et cette confiance ? Pas facile avec des ados.
Ça s'est installé via plein d'autres choses. Alors déjà, souvent, j'essaye quand même dans ces temps sur la mémorisation, etc., de jouer aussi sur l'aspect physique parce que ça les rend actifs quand même.
On garde les mêmes rôles, mais par contre, maintenant, il faut le faire plus vite. On échange les rôles et on garde le même vitesse.
Et puis aussi parce que dans la classe, quand ils sont trop moumou ou amorphes, ça nous arrive de faire des exercices de douche énergétique. Alors en plus, comme je le fais avec eux, ils me trouvent particulièrement ridicule et ils ont bien raison. Donc, ça les aide à s'engager dans ce genre d'activité. Donc voilà, je pense que ce sont des petits temps ponctuels au gré de ce que l'on peut faire, où le corps est volontairement engagé de ma part, qui font que c'est assez... C'est facile maintenant de le mettre en place sans avoir trop de réticence.
Ok, on s'arrête, on va à sa place.
Tu leur proposes de passer en métacognition, hein, de s'observer et de mettre des mots sur ce qui se passe dans leur corps ou leur cerveau.
De quoi on a eu besoin pour réussir ? Attendez, il faut que je trouve un stylo. Ouais. Baptiste ?
Regardez la personne.
Ouais, mais alors du coup, quand tu regardes, ça veut dire que tu crées quoi ? On crée quoi quand on regarde comme ça ? Ashley ?
Un lien.
Un lien. Donc, on doit essayer de maintenir un lien par le regard. D'accord ?
Faut se focaliser.
Faut se focaliser. On peut dire que être attentif, c'est être quoi alors ?
Connecté.
Connecté, être. Vous arrivez à me faire un verbe avec le mot qui est là ? Être. Lier ou relier. Exactement.
Est-ce que tes élèves y arrivent facilement ?
Non, c'est pas toujours facile. En fait, surtout, il y a une hétérogénéité de l'accessibilité à la métacognition selon les élèves. Et ça peut parfois créer un cours à deux temps. C'est-à-dire, justement, des élèves qui vont être très vite dans la métacognition et d'autres qui voient pas trop ce que je veux dire et qui, ou même s'ils le voient, ils n'arrivent pas à le faire.
Alors maintenant, on va continuer de parler de vocabulaire, mais toujours, tu peux arrêter, c'est quoi ce bruit là ? Toujours autour de l'attention. Est-ce que vous faites la différence entre le verbe écouter et le verbe entendre ? Vas-y, Yoann.
Écouter, ça veut dire qu'on est concentré sur ce que la personne dit, alors qu'entendre, bah, c'est par exemple, je peux parler avec... avec Lola, comme je peux vous entendre.
Du coup, c'est quoi l'activité d'entendre ?
Écouter.
Ah bah non.
Entendre ?
Ouais.
Ah, c'est entendre sans être focus.
Donc c'est juste les oreilles, en fait, qui fonctionnent. C'est juste les oreilles qui fonctionnent. Mais est-ce que votre cerveau, il est en train d'essayer de comprendre ce qui est dit, d'intégrer ce qui est dit, etc.
Non.
Non. Ça, c'est quel verbe, du coup ?
Écouter.
C'est le verbe écouter.
Et tu les vois évoluer au fur et à mesure du projet ?
Oui, mais on a encore du boulot. si, je les vois évoluer, mais je les vois évoluer en connaissance, je les vois évoluer en petits réajustements, mais par contre, il faut encore qu'ils s'approprient beaucoup de choses, mais dans leur quotidien, c'est-à-dire qu'ils les vivent vraiment dans leur quotidien, ce qui est ça est plus dur.
Tu leur proposes d'ailleurs de faire le lien explicite avec leur quotidien.
Je suis à la maison, je fais mes devoirs. Qu'est-ce qui peut perturber mon attention et ma capacité de concentration donc sur ce que je suis en train de travailler? Yoann ?
Sa vie.
Le bruit des autres enfants, par exemple ?
Ouais.
Ouais, tout à fait. Quoi d'autre, Yanis ?
Les jeux vidéo.
Les jeux vidéo ? Est-ce que des fois, vous jouez à la console en même temps que vous faites les devoirs ?
Oui.
Bah, Yanis, oui, des fois.
Oui,
des fois, oui, mais tu... c'est pas grave, t'as le droit de dire la vérité. Tout le temps, tu joues aux jeux vidéo ? En même temps ? Ouais. Disons, quand tu fais tes devoirs, tu le fais en même temps que les jeux vidéo, c'est ça ? Ok.
TikTok.
C'est-à-dire, globalement, pas forcément que TikTok, l'usage du téléphone pendant qu'on fait ses devoirs.
La télé si on fait ses devoirs dans le salon.
La télé si on fait ses devoirs dans le salon.
Tu parles beaucoup de la maison, de ce qui se passe à la maison. Est-ce que c'est un lien qu'ils arrivent à faire maintenant de façon plus aisée qu'au début ?
Alors, on essaye de faire ça, justement. On essaye de voir, par exemple, à un moment de l'année, dans le cadre de ce dispositif, on a réfléchi sur comment utiliser nos mémoires, et évidemment pas qu'à l'école. Enfin, bien sûr, la première réponse est toujours à l'école. Enfin, c'est très souvent à l'école. On essaye de voir comment l'utiliser dans plein d'autres situations de la vie. On essaye de mettre en place des grilles où on s'observe. Et l'observation, elle se fait pas que sur le temps de classe. Elle se fait aussi à la maison, dans la vie quotidienne, dans le sport, etc. C'est aussi ça, ce projet, c'est aussi de montrer que le cerveau, il sert à tout temps de la vie, pas seulement quand on passe la porte du collège.
Donc cette double modalité, je regarde mon portable, en même temps j'apprends ma leçon, je regarde mon portable, j'apprends ma leçon. Ça vous, dans un sens, un peu à l'échec de l'objectif d'apprendre votre leçon, pour le coup. D'accord ? Donc, on fait une chose à la fois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un livre ? Vous lisez, puis en fait, vous comprenez rien de ce que vous lisez. Vous êtes obligé de revenir en arrière en disant « Mais j'ai rien compris de ce que j'ai lu. » Mais, oui, vas-y, Léa.
Moi, tous les livres que je lis, je les comprends pas.
Donc peut-être que t'es pas dans une lecture attentive, peut-être que t'es dans une lecture distraite, peut-être, c'est une hypothèse. Lucas ?
Bah moi c'est pareil, quand vous avez donné un livre à lire, y a ma petite sœur qui criait sur son chat et du coup ça me perturbait, j'arrivais plus à... je comprenais plus.
Tu ne comprenais plus ce que tu lisais. Vous voyez, ça nous arrive à tous en fait, et c'est normal d'avoir des moments de déconcentration. Ce qu'on doit faire, ce qu'on doit essayer de faire, au moins quand on est en classe, c'est de se dire je suis en train de me déconcentrer. En fait, l'idée, c'est à chaque fois d'avoir cette petite alarme qui nous dit oh là là, il y a un truc qui va pas, je suis en train de me déconcentrer, donc je me remets dedans.
Je suis particulièrement sensible au fait que tu fais en sorte de ne pas juger les propositions et les fonctionnements de tes élèves.
Ça fait des années où je le fais en conscience. C'est-à-dire qu'il faut accueillir la parole, même si elle perturbe, même si, en fait, au fond de soi, elle révolte. En fait, c'est la base du truc pour moi. C'est-à-dire, si tu accueilles la parole, alors, à partir de là, tu peux déconstruire éventuellement des représentations qui peuvent être complètement dysfonctionnantes ou choquantes, voire même parfois illégales, au sens global du terme. Mais par contre, disqualifier une proposition d'un élève dès le départ, bah, du coup, il n'y a plus de dialogue, en fait, c'est fini. Et il restera dans sa position.
On va regarder une petite vidéo maintenant, où il y aura encore un jeu. Alors, donc, vous allez avoir à l'écran des mots verts et des mots bleus. Chaque couleur va former une histoire. D'accord ? Vous allez voir, ça va aller vite. Vous, ce que vous allez devoir faire, c'est réussir à redire, re-raconter l'histoire avec les mots verts. On écoute la réponse ? Ah bah non, déjà, essayez de me la donner. Vas-y.
Greg est parti voir sa tante au Maroc.
Greg est parti voir sa tante au Maroc. Est-ce que quelqu'un y a autre chose que ça ?
Hier, Greg est parti voir sa tante au Maroc.
Est-ce que quelqu'un a autre chose que ça ?
Non, hier.
Ok, on va voir la bonne réponse, d'accord?
Tu n'hésites pas à parler de tes ressentis, de ce que tu mets en place ou de ce que tu n'arrives pas à mettre en place.
Est-ce que vous êtes capable de raconter l'histoire bleue?
Non.
La plupart d'entre eux. Moi, j'ai pas réussi. Hein.
Bah, il vous a demandé de voir que les mots en vert.
La consigne, on nous a demandé ça.
Tu y vois quelle plus-value?
Ben en fait, déjà, c'est pour les sortir du positionnement de l'apprenant qui ne sait pas, justement, ou qui se sent nul. Ce que je voulais, c'est qu'ils sentent que moi, adulte, la prof, je pouvais être aussi en échec sur ce truc, pour voir qu'en fait, c'est comme tout le monde. Et il n'y a pas ceux qui savent fonctionner, ceux qui ne savent pas fonctionner. Ça, c'est important pour moi.
Du coup, notre cerveau, il a fait quoi? Il ne se focalise pas du tout, notre cerveau? Lucas,
il a trié les mots verts et les mots bleus.
Donc notre cerveau, il a fait quoi? Il a choisi de trier et de sélectionner quoi seulement?
Il a choisi de juste sélectionner les mots verts.
Pourtant, est-ce que les mots bleus, vous les avez vus avec vos yeux?
Oui.
Bah si, on les a vus. Tu les as vus quand même. Tu les as vus, mais t'as eu l'impression de pas les voir. Pourquoi? Du coup, Yanis?
On était focalisé sur la
vert. Parce qu'on était focalisé sur les verts.
Qu'est-ce que tu notes comme changement entre les élèves avec lesquels tu n'as pas eu ce type de projet et ces élèves avec qui tu mènes ce projet-là?
Alors, pour moi, la différence, c'est que j'ai l'impression d'avoir davantage d'emprise, mais pas au sens contrôle, mais de possibilité d'agir sur les problématiques des élèves, par exemple en termes d'apprentissage. Quand un élève dit « j'arrive pas à apprendre ma leçon », ou alors quand un élève ne le dit pas mais de fait est en échec là-dessus, quand un élève dit « ah, de toute façon, moi j'ai pas de mémoire, je suis nul », et tout ça, ça permet de se sentir plus actif vis-à-vis des élèves, de les outiller surtout pour poursuivre leur scolarité, et ce jusqu'à la fin, parce qu'en fait les outils qu'on essaye de leur donner, ils vont leur servir pas seulement qu'au collège.
Tu choisirais quel animal pour représenter l'enseignante que tu es quand tu parles cerveau, cognition avec tes élèves?
Je sais pas, un truc genre un oiseau mais un peu aigle, quoi.
Un truc avec une vision voilà. Très perçante comme ça.
Voilà, exactement.
Quels seraient les premiers pas que tu conseillerais aux enseignants et enseignantes qui auraient envie de se lancer dans cette dynamique d'apprendre à leurs élèves à apprendre?
Se former. Le premier pas, c'est se former, c'est obligatoire. Alors, ça peut être une formation totalement autodidacte, hein. Attention, je dis pas qu'il faut faire 6 mois de formation avec je ne sais trop quel organisme. Mais par contre, se former. C'est impossible de mener ce dispositif sans un bagage.
Et un dernier conseil de sensei, de sage de l'éducation, pour les enseignants et enseignantes qui nous écoutent?
Quand un élève est en échec sur le fait d'apprendre, c'est pas toujours ou de sa faute ou de sa mauvaise volonté, c'est peut-être parfois qu'il ne sait pas comment faire.
Merci pour cette dernière phrase de conclusion, Peggy.
Merci à toi.
C'était le 17e épisode de la saison 2 d'Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Decouteau, réalisée et mixée par Benjamin Massé et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.